à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Benoît Vignon, bonjour.
Bonjour Bruno.
Benoît, c'est le quatrième dialogue qu'on a ensemble. Je rappelle pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu le plaisir de vous écouter, et je les invite par le podcast à revenir en arrière et à vous écouter, parce qu'il y a un peu une suite logique dans nos interviews, et ça permettra de mieux comprendre votre personnalité. Donc, je rappelle que vous avez 41 ans, vous avez eu une vie classique, je dirais, très investie dans les entreprises où vous êtes passé, notamment la dernière. Et puis, en début 2024, vous avez une rencontre avec le Christ. Et là, vous l'avez dit vous-même, vous passez d'une foi froide à une foi chaude. Vous changez un peu tout dans votre vie. Vous redéfinissez vos aspirations professionnelles, vous installez à votre compte, vous sortez de votre entreprise, où vous passiez 200% de votre temps, je vous cite, et vous dégagez du temps et vous avez un rôle important à la cathédrale de Toulouse, à la cathédrale Saint-Étienne, autour du père Simon d'Artigues et de toute l'équipe qui l'entoure. Vous êtes chantre le dimanche, tous les dimanches à la messe, mais pas que. Vous êtes aussi un ani, c'est-à-dire que vous formez une douzaine de catéchumènes qui seront baptisés en 2026. Vous êtes animateur de la préparation au mariage, vous organisez aussi le pèlerinage des époux. Bref, vous êtes très investi dans la vie de la paroisse et dans la vie de la communauté chrétienne, catholique en général. Et donc, je voudrais que dans ce dernier entretien, on parle de cette fameuse loi sur la laïcité qui régulièrement revient au devant de la scène. C'est vrai que la France a un modèle particulier avec cette fameuse loi de 1905 qui a séparé l'Église et l'État, selon le principe de rendre à César ce qui est à César et de laisser l'intemporel dans le domaine du religieux. C'est vrai qu'on a dit que notre pape François, qui n'est plus là aujourd'hui, mais à l'occasion des hommages qu'on lui a rendus, on a dit qu'il n'avait pas bien compris comment fonctionnait la laïcité en France. Et quand on regarde un peu les pays qui nous entourent, ou de façon générale d'ailleurs, pas que ceux qui nous entourent, il y a très peu de pays qui sont véritablement laïcs. Bon, bien sûr, il y a les pays de tradition communiste, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais autour de nous en Europe, on est quasiment une exception avec cette loi sur la laïcité. Et on peut comprendre donc que les gens qui n'ont pas été dans cette culture aient du mal à la situer. Vous, c'est quoi la laïcité à la française pour vous ?
Alors, la laïcité à la française, ce que ça doit être, selon moi, c'est, comme vous l'avez dit, la séparation de l'Église et de l'État. Aussi simple que ça. Et c'est permettre une liberté de culte à tous, quel que soit le culte. Voilà, ça c'est pour moi la définition de la laïcité. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en France, la laïcité se transforme en athéisme d'État, et ça entraîne en fait une sorte de vide qui d'ailleurs est appelé à être comblé, puisque la nature a horreur du vide. Donc il y a des religions qui savent très bien le faire et qui ont elles-mêmes horreur du vide, parce que je parle par exemple de la religion musulmane qui vient de pays où la laïcité n'existe pas. Il n'y a pas de séparation entre l'islam et l'État, et donc c'est une religion qui n'hésite pas à s'exprimer sur le terrain, quoi. Voilà. Et nous, chrétiens qui avons toujours vécu dans cette ambiance laïque, mais en fait, on n'ose même plus s'exprimer, quoi. Donc on vit ça de manière extrêmement intime.
C'est vrai que le sentiment qu'on a quand on discute avec des gens qui ne partagent pas notre foi ou qui sont complètement athées, mais même avec des agnostiques, on a le sentiment que derrière le mot laïcité, ils ne mettent pas la même chose que ce qu'ont voulu y mettre les gens qui ont fait la loi de 1905, hein, le législateur, qui était simplement que l'État devait rester neutre. Et neutre en permettant à chacun d'avoir la croyance ou de ne pas croire, mais avec une neutralité de l'État. Et aujourd'hui, on a le sentiment que cette neutralité se transforme en dégagisme en quelque sorte, c'est-à-dire on ne veut plus entendre parler de religion, on ne veut plus avoir de crèche par exemple, ou faire la moindre référence à la naissance du Christ au moment de Noël, on ne veut plus faire référence à la résurrection, à Pâques, etc.
Tout ça,
on veut le gommer. Or, c'est pas ça qui est dans la loi. Et c'est pas l'esprit de cette loi.
Et d'ailleurs, l'esprit de cette loi était, je pense, assez sain, parce qu'il n'y a rien de pire que d'imposer une religion. Il n'y a rien de pire que d'imposer une croyance. Et on a fabriqué des générations de personnes quasiment traumatisées par la foi imposée. Dans les écoles privées, enfin voilà, disons-le, hein, la foi imposée a fait du dégât. Et en fait, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, ça invite à la liberté du choix de sa religion et de sa croyance. Et c'est quelque chose d'extrêmement sain, parce que dès lors que vous le vivez de façon libre, c'est une démarche positive et vous le vivez pleinement. Oui. Donc cette loi, elle est très bien. Par contre, ce qu'on en fait, ça pose quand même certains doutes, quoi. Parce qu'en fait, on veut éliminer le sacré. À mon sens, la laïcité à la française cherche à éliminer le sacré. Il y a quelque chose qui dérange dans le sacré. Or, pour moi, le sacré est absolument essentiel dans le fonctionnement d'une société.
Oui, mais en même temps, nous, chrétiens, et catholiques en particulier, on sait que le message du Christ a toujours dérangé. Au fond, il y a 2000 ans que ça existe. Hein, c'est un message qui dérange. Et le pape François était bien porteur de cette dimension-là. Et je crois qu'on lui en est tous reconnaissants de nous avoir remis sur les rails du message du Christ et de son caractère révolutionnaire, entre guillemets, en tout cas dérangeant. Mais c'est vrai que ce caractère dérangeant se traduit souvent par une négation, c'est-à-dire qu'on voudrait voir disparaître la religion. Et comme on n'y arrive pas, on le voit bien que les politiques n'arrivent pas à empêcher les musulmans d'exprimer leur foi dans l'espace public, eh bien, les seuls qui sont prêts au sacrifice, c'est les chrétiens, quoi, en quelque sorte. Moi, j'ai parfois ce sentiment. Et donc, on nous tombe dessus.
Oui. C'est plus facile de nous tomber dessus.
Ouais.
C'est plus facile de nous tomber dessus, mais en fait, on devrait réagir différemment et on devrait aussi exprimer notre foi. Mais j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup, beaucoup d'espérance, parce qu'aujourd'hui, je vois que les gens ont beaucoup plus de facilité à exprimer leur foi, ont beaucoup plus de facilité à parler du message du Christ aux personnes qui ne le connaissent pas. Ça se fait dans le travail, ça se fait dans la rue, ça se fait aux sorties des églises. Mais il y a une vitalité aujourd'hui qui est très supérieure, qui est peut-être d'ailleurs donnée par... C'est peut-être le legs du pape François, qui nous a invités à sortir de nos zones de confort et à aller vers l'autre. Alors que... avant le pape François, on pouvait encore être un peu dans notre club, quoi, hein, dans notre zone de confort.
Oui, et c'est vrai aussi que, comme tous les laïcs, je pense, vous et moi, on est confrontés souvent à un reproche qui est, alors je caricature, oui, mais il y a l'inquisition, oui, mais il y a les guerres de religion, oui, mais il y a la pédophilie, oui, mais il y a... Donc, face à ça, Notre réponse, en tout cas la mienne, c'est de dire, mais ça, ce sont les hommes. Le message du Christ, c'est pas ça.
Tout à fait.
Donc, il faut revenir à la parole du Christ. Et c'est ça qui est souvent difficile et qui fait qu'on est peut-être en retrait parce qu'on se prend tellement ces critiques depuis les guerres de religion ou les défauts peut-être de l'Inquisition, le mauvais côté de l'Inquisition, etc. On se prend tellement ça dans la figure qu'on a tendance à rester dans notre coquille.
Oui, mais on pourrait aussi pointer du doigt la Révolution qui n'agissait pas au nom du Christ et qui a commis aussi les pires exactions. Donc on est tous pécheurs en fait. On est tous pécheurs, donc l'homme est faible, l'homme est pécheur. Si on regarde la religion en regardant ses membres, ben on peut s'offusquer de tas de choses. En revanche, si on regarde vraiment le message du Christ, qui est l'ouverture aux autres et l'amour de son prochain, c'est difficilement contestable.
Oui, je reviens sur cette notion, on est tous pécheurs. C'est vrai que moi, quand je suis face à des gens qui me disent « Oui, mais regarde les atrocités de l'Église », je dis d'abord « L'Église, c'est pas le Christ, mais l'Église, c'est une organisation humaine. Et est-ce que vous rejetez la République parce qu'il y a eu des massacres pendant la Révolution française ?» Non, la Vendée a été complètement sous le coup d'un quasi-génocide en Vendée, au nom de la République. Et c'est pas pour ça qu'on a un rejet de la République. Donc vous pourriez faire pareil. Alors, en général, ça calme un peu les gens et on peut reparler du cœur de ce qu'est notre foi, c'est-à-dire le Christ, Fils de Dieu, qui nous a transmis un message d'amour et la notion de pardon. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous abordez aussi le sujet.
Oui, oui, complètement, oui. Enfin, il faut dissocier le péché du pécheur, déjà. Il faut aimer son prochain en tant que pécheur. Rejeter le péché, oui, c'est une chose. Essayer de le combattre, il faut qu'il y ait match contre le péché. Et il faut essayer de le remporter, ce match. Mais par contre... il faut aimer son prochain en tant que pécheur, d'abord parce qu'on l'est soi-même et qu'on ne peut pas juger l'autre.
Ouais.
Donc ça, c'est le message. Après, est-ce que tout ça peut s'exprimer dans la laïcité à la française ? Ben, en fait, oui, je crois que oui. Si la communauté musulmane arrive à s'exprimer dans la laïcité à la française, c'est qu'elle a tout compris, c'est qu'elle prend la part de terrain qui lui est donnée, c'est qu'elle prend la part de vide sidéral qui est donnée. Un vide qu'on refuse aujourd'hui, un vide spirituel en fait qui est proposé par notre société et qui est comblé par les religions. Et donc c'est à nous chrétiens de aussi combler ce vide en sortant de notre zone de confort tout simplement.
Eh bien c'est le témoignage, Benoît, que vous nous avez apporté pendant ces quatre interviews. Je crois que vous illustrez parfaitement ces dernières paroles. Vous essayez de combler le vide et vous êtes très actif dans votre paroisse et on peut vous en être reconnaissant au nom de toute notre communauté chrétienne catholique.
Merci beaucoup Bruno de m'avoir invité.
Merci Benoît.
Au revoir.